Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h45, c'est le petit déjeuner politique de Gilles Platret, qui est maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains et candidat au régional en Bourgogne et Franche-Comté.
Oui, bonjour Gilles Platret.
Bonjour.
Paris n'est pas une capitale exemplaire, hein, zone écarlate. Est-ce que vous approuvez, vous, la fermeture des bars à partir de demain, a priori, qui devrait être annoncée?
J'aimerais pas être restaurateur ou barman en ce moment. Je comprends qu'il faille prendre des mesures. D'un autre côté, tant qu'on maintiendra, excusez-moi de le dire aussi brutalement, les transports en commun aux heures de pointe, je pense qu'on se contaminera plus dans le métro qu'on peut se contaminé à la terrasse d'un café. C'est une vraie question quand même aujourd'hui. Ouais. On cible une profession, on l'ostracise un petit peu, elle réagit et c'est normal. D'un autre côté, on ne peut pas ne rien faire, mais honnêtement, est-ce que c'est la seule cible pour réduire l'épidémie? C'est quand même une vraie question et je pense qu'elle mérite d'être posée.
Bah oui, mais on risque même d'aller plus loin. Vous avez vu, au Québec, par exemple, ils interdisent les rassemblements de plus de 2-3 personnes. On ne peut plus inviter d'amis chez soi. Ouais. Et c'est peut-être ce qui va venir en France. Hein.
Écoutez, moi je pense en tout cas qu'il faut éviter une chose absolue, c'est le reconfinement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça traîne aussi dans les discours, on l'entend parfois. Moi, je vois ce qui s'est passé lorsqu'on a reconfiné la première fois. Vous avez des personnes seules qui se sont retrouvées complètement isolées, qui se sont mises en danger. Pas forcément que des personnes âgées, d'ailleurs. Il y a un coût social qui va être terrible, donc il faut à tout craint, en tout cas, éviter le reconfinement. Prendre des mesures, c'est nécessaire, à condition de pas cibler une profession plutôt qu'une autre, tout simplement.
Oui, parce qu'on parle souvent des grandes métropoles. On a parlé beaucoup de Marseille, là, c'est Paris, Toulouse, Lyon, etc. Mais vous, comment on le vit dans votre ville, vous, par exemple, de Chalon?
Écoutez, moi, je trouve que la population est extraordinairement disciplinée. Enfin, les gens portent le masque. J'ai pris un arrêté sur le port du masque dès la fin du mois d'août pour être vraiment en amont, en tout cas dans les zones où il y avait potentiellement plus de monde, les zones commerçantes du centre-ville. C'est très bien respecté, honnêtement. Ouais. Sur les terrasses de café, moi, je trouve que les patrons font leur boulot. Alors, on a toujours des exceptions, évidemment, et on passe quand même pour regarder un petit peu les choses.
Autour d'une table où il doit y avoir 5-6 personnes, bien sûr, on se retrouve à 10-12,
voilà. Mais 15. C'est normal. Pour autant, je vous dis que c'est globalement très bien respecté. Donc, je pense qu'il faut rester évidemment ferme sur le protocole à l'intérieur des établissements, mais tout faire autant qu'il est possible pour ne pas les fermer, parce que ça, c'est la catastrophe.
Est-ce qu'il y a une meilleure coordination, concertation avec le terrain?
Je pense que les cris légitimes des élus marseillais, après les dernières mesures, vous avez suivi ça, lorsque tout était tombé du gouvernement sans concertation préalable, ont amené les préfets à faire un petit peu plus attention. Ouais. Voilà, donc il y a un peu de concertation, c'est quand même bien le moins. Pour autant, on est quand même, disons-le clairement, depuis des mois, sur une absence complète de cap. On va à droite, on va à gauche, on revient en arrière. Et ça, je pense que, même si la situation n'est pas simple à gérer, je l'entends parfaitement du côté du gouvernement. Pour autant, aujourd'hui, quels sont les Français, dans leur ville, dans leur département, qui sont capables de dire avec certitude ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire? Le message a été complètement brouillé par absence de cap, et finalement, on met les gens en danger parce qu'il y a une incertitude généralisée sur les mesures à prendre.
Oui, alors Gilles Platret, en tant que maire LR, vous avez été aussi très engagé sur les questions de la laïcité, en interdisant par exemple les menus de substitution du porc à la cantine. Est-ce que vous avez été convaincu par le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme vendredi? Les séparatismes,
non.
Puisque visiblement...
Non, non, non. Et je m'étonne que certains de mes amis l'aient été aussi subitement.
Bah oui, parce que j'ai entendu des...
Oui, moi aussi, j'ai entendu...
Des gens, des Républicains qui disent oui.
Oui, oui, j'ai même... Alors, on parle des Républicains, enfin, on a entendu un ancien Premier ministre socialiste, M. Valls, dire qu'enfin, M. Macron avait trouvé le bon chemin. On a entendu un responsable éminent du Rassemblement National, M. Collard, qui était à deux doigts d'adhérer En Marche parce qu'il trouvait que les mesures étaient géniales. Je pense qu'il y a une illusion. M. Macron est un hypnotiseur et il a hypnotisé une partie de la classe politique.
Ah oui.
Quand vous déconstruisez son discours, j'ai passé mon week-end, non pas avec M. Macron, mais en tout cas avec le texte de M. Macron. C'est toujours intéressant de regarder le texte et pas simplement de regarder les images à la télé, parce que vous ne retenez avec les yeux, quand vous êtes sur un écran, qu'une partie de ce qui est dit. Il rassure tout le monde avec des mesures assez emblématiques. On va interdire les menus confessionnels dans certaines communes, c'est-à-dire les menus halal, disons-le comme ils sont. On va interdire que les piscines soient réservées à certains créneaux horaires aux seules femmes, etc., etc. Donc ça, c'est la partie rassurante. Et puis, il y a la quatrième partie du discours qui, en fait, rien moins que l'adaptation de la République à une religion qui s'appelle l'islam. Il veut promouvoir l'enseignement de l'arabe à l'école. Il veut que, par délégation de service public, le Conseil français du culte musulman certifie les imams sur le territoire. Enfin, on est en train de complètement mettre sous le tapis la loi de 1905 sur la laïcité qui interdisait à l'État de toucher à leur religion. Monsieur Macron dit, même s'il essaye de s'en défendre, mais c'est très clair dans son discours, Monsieur Macron dit, il faut que l'État organise l'islam. C'est pas son boulot.
Bah oui, mais est-ce que ça ne part pas d'un bon sentiment en voulant contrôler le développement de cette religion et puis en contrôlant, par exemple, le financement aussi des mosquées?
Le principe de la laïcité, ça n'est pas d'organiser les religions à leur place. Ouais. C'est d'être une digue contre l'empiètement de la religion sur l'espace public. En disant, vous savez très bien que la loi de 1905 ne dit pas nous reconnaissons les religions, c'est la loi, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en train de reconnaître une religion, de l'institutionnaliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas surveiller les financements, mais qu'on fasse de la surveillance, qu'on ne fasse pas de l'organisation. Monsieur Macron va beaucoup trop loin, c'est même un projet de société. Ce n'est pas qu'un projet d'organisation de la religion islam, c'est ancrer l'islam dans la vie quotidienne des Français, et notamment par l'enseignement de l'arabe à l'école.
Alors l'enseignement de l'arabe à l'école, visiblement, selon le ministre de l'Intérieur, ça doit permettre de lutter contre l'islamisme radical.
Oui, c'est génial. En fait, on est en train simplement d'imposer dans notre culture l'apprentissage spécifique d'une langue, d'ailleurs comme si l'arabe était la seule langue de l'islam, parce qu'il y en a d'autres. Et aujourd'hui, le projet de société, c'est de dire, finalement, on ne peut pas lutter contre la propagation de l'islam et encore moins contre la propagation de l'islamisme, donc on va l'organiser. Moi, je fais partie de ceux qui disent si l'islam doit se développer, laissons-le se développer. J'allais dire, comme foi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas anti-islam. Simplement, je crois que ça n'est pas à la République de prendre ces choses-là en main. La République doit mettre des bornes en disant, vous allez jusqu'ici, mais pas plus loin, parce que là, c'est le domaine public. Or, on va au-delà. Monsieur Macron sort de son rôle, piétine la loi 1905 et veut organiser la religion par l'État. C'est quelque chose qui est énorme, qui va nous entraîner et le doigt et le bras, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui revenir sur la loi 1905 sans danger pour la République.
Oui, et vous, les maires, vous serez en première ligne aussi dans l'application de cette loi ou pas?
Écoutez, on verra bien. J'ai cru comprendre que le ministre de l'Intérieur, rappelons quand même que le ministre de l'Intérieur actuel était favorable à un concordat avec l'islam il y a quelques années. C'est-à-dire, en gros, revenir sur la séparation. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même reprendre les choses. Je ne sais pas si on sera consulté. Moi, je note simplement une chose, on se rassure avec des lois, avec des annonces de lois. Regardez la loi qui interdit le voile intégral en France. Qui peut dire dans les quartiers si elle est aujourd'hui, qu'elle est aujourd'hui respectée? Elle n'est pas respectée. Donc ça n'est pas parce que vous votez une loi à grand renfort de médiatisation que vous réglez le problème. Aujourd'hui, le salafisme, l'islamisme est en train de progresser dans nos quartiers et ce ne sont pas ces mesures qui l'en empêcheront.
Oui, mais alors l'interdiction par exemple du port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires, ça a fait de nouveau polémique. Là, en tout cas, ce n'est pas décidé. Parce qu'on dit, sinon qu'on risque de séparer une partie de la République de ses enfants et de ses mères de famille.
Bon, ben voilà. Vous avez mis le projecteur sur une des grandes faiblesses de ce texte, c'est-à-dire, en gros, M. Macron a fait des choix. Il interdit certaines choses, mais pas d'autres. Les accompagnatrices scolaires pourront toujours être voilées, alors qu'elles accomplissent une mission de service public et qu'elles amènent un signe religieux dans l'école ou dans la sortie périscolaire qui dépend de la pédagogie. Les étudiantes pourront continuer d'être voilées à l'université. On a 100 mosquées salafistes. Est-ce que M. Macron nous a dit qu'il allait les fermer? Non. On a 3400 étrangers convaincus de radicalisation. Est-ce qu'il a dit qu'il allait les expulser? Non. On pourrait multiplier les choses comme ça. Donc en fait, on a fait du cosmétique. Ouais. Ça plaît à une partie de la classe politique. Visiblement, il a réussi son but. Oui, mais ça ne réglera pas le problème de l'islamisme en France.
Gilles Plateret, le port du voile, ce n'est pas forcément uniquement pour les salafistes. Il y a des musulmans modérés qui veulent porter le voile.
Mais je l'entends. Simplement, dans le cadre d'un service public, s'il y a une visée prosélyte, pourquoi est-ce qu'on interdit aux enfants, par exemple, de porter le voile au collège? Pourquoi est-ce qu'on leur interdit? Parce que c'est l'entrée d'un signe religieux dans la terre de l'école. Vous connaissez, vous avez rappelé la mesure que j'ai prise dans les cantines. D'ailleurs, j'ai vu que M. Macron ne l'avait pas repris à son compte. Il interdit les menus halal, mais pas les menus de substitution, qui sont aussi une norme religieuse reconnue dans l'organisation d'un service public. Donc, on voit bien qu'il a fait des choix. Et ces choix sont là pour essayer de rassurer une partie de l'électorat. Mais je le dis dès maintenant, et je me permets de le dire avec certitude, sur la base des anciennes lois qu'on a votées qui n'ont pas toutes été appliquées, ça ne réglera pas la question de l'islamisme en France. On a fait de l'habillage et il faut ouvrir les yeux sur la réalité. Ça ne sera pas suffisant pour empêcher des progressions qui ne font qu'augmenter depuis 40 ans. Oui. Et il y a quelque chose qui me choque profondément. Oui. Moi, je respecte le législateur. Il fait généralement un travail fabuleux, notamment mes amis républicains dans l'opposition. Pour autant, on n'a jamais consulté le peuple français sur ce changement de société. Depuis que la droite a institué le regroupement familial dans les années 70. Mmh. Toutes les mesures qui ont été prises concernant l'immigration, l'intégration ou l'absence d'assimilation ne sont jamais passées devant le peuple français. Il serait bon qu'à un moment donné, sur ces questions qui sont des changements de société profonds, on consulte la France tout entière.
Il y a des votes, il y a des élections, il y a la présidentielle.
Il peut aussi y avoir, dans le cadre d'un changement de société, il peut aussi y avoir une consultation référendaire. Oui, ça existe.
Un mot de notre sondage aussi, IFOP Fiducial Sud Radio JDD ce week-end. Les Républicains qui patinent, c'est Xavier Bertrand qui fait le mieux à 16%. Pourquoi ça ne marche pas du côté des Républicains quand
En tout cas, si on doit se battre entre nous pour occuper la troisième phase, il vaut mieux qu'on retourne chez nous, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a des étapes à franchir. D'abord, nous sommes dans l'attente, comme vous le savez, même si l'attente est un petit peu éventée, de la décision d'un membre des Républicains éminent qui s'appelle François Baroin, président de l'Association des maires de France. Pour autant, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais candidat aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que rien ne se passera dans l'échéancier politique qui est le nôtre avant que les régionales soient passées. Mmh. Ne serait-ce que parce que chez les présidents de région actuels, il y a un certain nombre de candidats qui pourraient être intéressés par le scrutin présidentiel et qui veulent donc savoir d'abord s'ils ont la confiance de leurs électeurs pour pouvoir ensuite prétendre à d'autres élections. Il y a peut-être aussi d'autres candidats en dehors du jeu qui pourraient être intéressés pour revenir à un moment donné. Je ne sais pas, je ne suis pas là. Mon ami Guillaume Larrivé avait lancé chez vous une idée il y a quelques semaines.
Nicolas Sarkozy.
Il est évident que le nom Nicolas Sarkozy peut revenir dans certaines pensées. Je ne suis pas son agent, même si je suis, je l'espère en tout cas, quelqu'un d'assez proche
mais
de lui.
Mais chez les Républicains, on y pense sérieusement.
Mais bien entendu, allez donc demander aux militants ce qu'ils en pensent. Ouais. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a dit très clairement, et il était encore à Chalon-sur-Saône dans ma ville il y a une dizaine de jours, qu'il ne revenait pas dans la politique partisane. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aujourd'hui revenir dans le jeu des Républicains, dans le jeu du Parti des Républicains.
C'est-à-dire qu'il pourrait se présenter sans avoir...
Écoutez, je pense que dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas laisser M. Macron et Mme Le Pen arbitrer le destin de la France tout seul. Mmh. Il va bien falloir que nous trouvions une solution d'ici, allez, on va dire, l'été 2021, pour que nous ayons un candidat qui pèse et qui ne court pas simplement pour la troisième place.
Question avec Cécile Ménibus. Cécile.
Oui, comme certains parlementaires, vous n'avez pas co-signé la tribune hier du JDD pour la légalisation du cannabis. Pourquoi ?
Parce qu'on ne me l'a pas proposé.
Ah, bah.
Petite erreur de mes amis parlementaires. On avait trois maires qui ont fait une tribune et on a décidé de faire une contre-tribune uniquement avec les parlementaires. Je me dis que c'est peut-être l'effet du découplage et de l'interdiction du cumul des mandats. Mais alors, très honnêtement, je dis ça avec humour, on ne pouvait pas, je pense que l'idée c'était de la sortir assez vite. Donc on a fait ça dans l'entre-soi parlementaire, très bien. Non, je n'y suis évidemment pas favorable à cette légalisation. Moi je suis favorable à l'intensification des contrôles. On parlait tout à l'heure de la progression de l'islamisme en France, largement financé par l'argent de la drogue dans nos quartiers.
D'ailleurs, vous voulez un référendum sur quoi ? J'ai pas bien compris.
Mais sur ce que M. Macron nous a débité au Mureau, mais qu'il le mette donc en texte de loi, c'est-à-dire le changement de société avec la...
Il y aura un texte de loi.
Non, mais qu'il le mette en texte de loi référendaire. Vous m'interrogez sur le référendum. Ouais. Moi, je pense que ça intéresserait sacrément les Français.
Il faudrait un référendum.
Mais en tout cas, c'est une idée personnelle, ça n'est pas les Républicains qui le demandent.
Ouais.
Mais moi, je dis très clairement, puisqu'on est sur un changement de société, qu'on veut adapter la République à l'islam, eh bien qu'on interroge les Français sur leur avis sur la question. Voilà,
merci,
tout simplement.
Merci. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains et candidat au régional, aussi en Bourgogne-Franche-Comté dans quelques temps, était l'invité de Sud Radio ce matin.
Et dans un instant, c'est le journal de 8h. Bienvenue.